La Marche du Monde présente African Queens, ces femmes qui ont changé l'Afrique. Une collection documentaire proposée par Valérie Nivelon.
Épisode 5, Tchad, quand les femmes prennent la voie du syndicat.
Temba est une jeune femme très intelligente et engagée dans la lutte contre l'injustice. C'est une femme qui a de l'avenir. C'est une vraie activiste sur qui nous pouvons compter pour la relève dans ce pays, dans le milieu syndical. Il y en a d'autres, bien sûr, jeunes femmes comme elle, mais elle, elle est remarquable. Elle peut prendre la relève pour lutter pour le droit de la femme au Tchad.
La voix d'Atoudji Guémé sur RFI, présidente fondatrice du comité des femmes de l'Union des syndicats du Tchad. Elle fait l'éloge de Kamadji Demba Kariom, comme de sa propre fille. À peine 40 ans et déjà syndicaliste chevronnée, Kamadji Demba Kariom joue la partition de la modestie et aime à dire qu'elle n'est qu'une femme tchadienne engagée parmi d'autres. Elle est pourtant l'une des militantes de sa génération, des plus impliquées dans la lutte contre la dictature du clan Déby, au pouvoir depuis plus de 3 décennies. Tchad, quand les femmes prennent la voie du syndicat. C'est un nouvel épisode documentaire de La Marche du Monde consacré au combat de Kamadji Demba Kariom pour améliorer la condition des femmes, lutter contre l'injustice et la corruption au Tchad. Un portrait signé par notre reporter Clémentine Métainier.
Kamadji Demba Kariom, vous êtes présentée tantôt comme syndicaliste, tantôt comme greffière. Vous êtes aussi présentée comme sociologue, comme militante tchadienne. Comment est-ce que vous-même, vous aimez vous présenter ?
Citoyenne du monde, je me présenterai. Et syndicaliste pour la militante née, et dont je suis fière d'être, et de porter partout et ailleurs les valeurs humaines que m'a apporté le militantisme.
Qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce qui vous frappe?
Je suis étonnée par le courage, par l'engagement et la motivation des femmes et des hommes démunis dans la précarité totale, la misère totale, mais qui, au lever du soleil, ont le sourire et vaquent normalement à leurs activités champêtres et pour essayer d'apporter ne serait-ce qu'une tasse de bouillie à leur famille au quotidien. Sans pour autant demander grand-chose, mais je me suis dit, mais quel est ce courage qu'ont ces personnes-là?
Vous aviez quel âge? 19 ans, 20 ans?
J'avais 19 ans, très jeune. Et après avoir eu ma licence, j'ai travaillé avec des organisations de la société civile. J'ai sillonné un peu les villages et cela m'a permis déjà d'être en contact direct avec les populations locales. Et je crois que c'est l'âge de la découverte. Les jeunes de mon âge aujourd'hui qui avaient 19 ans à ce temps-là, tout le monde voulait partir. Visiter l'Eldorado, traverser la mer, venir en Europe, aller vers d'autres horizons. Mais moi, je m'enfonçais plus dans l'intérieur du Tchad. Je visitais les profondeurs de nos cultures et de notre pays. Et ça me fascinait, mais en même temps, les côtoyais me révoltaient davantage. Il fallait trouver le juste milieu pour arriver à accompagner ou bien donner sa voix à celle qui s'élevait déjà pour dénoncer, pour réclamer, pour soutenir.
Poussée par ses aînés, Demba Kamadji Kariom pourrait prendre un jour la tête de l'UST, l'Union des syndicats du Tchad. Déjà présidente du comité des femmes du syndicat des greffiers, elle assiste également l'autorité indépendante de lutte contre la corruption. Pour Demba, Le syndicat, c'est l'échelon le plus approprié pour lutter contre la dictature, comme elle l'exprime publiquement dans ses discours, lors de ses conférences, invitée par l'association Survie, qui s'inscrit dans la lutte contre le néocolonialisme français en Afrique. Clémentine Métainier l'a suivie lors de sa tournée française. Nous sommes à Grenoble le 12 mars 2024.
Même lorsqu'il y a des partis politiques qui se démarquent pour pouvoir s'opposer aussi comme acteurs politiques, on sait le sort qui leur est réservé parce qu'aucune dictature n'est prête à passer le pouvoir. Et toutes les dictatures ont les mêmes méthodes, partagent les mêmes moyens d'action, c'est-à-dire réprimer déjà toutes les voix qui se lèvent contre elles et choisissent les opposants qui devraient les accompagner dans le jeu démocratique. Et à la fin, ils conservent le pouvoir sans pour autant veiller à l'intérêt des populations ou à la répartition des richesses nationales.
Être militante, c'est déjà, c'est un privilège. C'est un privilège d'être militant engagé. Et moi, j'avais la difficulté de trouver l'organisation qui devrait répondre à mes besoins, de répondre à mes inquiétudes et me permettre d'éclore. Parce que toutes ces énergies, pour moi, je ne savais pas si c'était dans une organisation de la société civile, si c'était aux côtés de l'État ou bien c'était dans un parti politique. Lorsqu'on fait toujours l'état des lieux sur les tâches à organiser, le planning de chaque femme, c'est pas facile d'être militante au Tchad parce que il faut, c'est comme au départ de la course, tu dois courir avec 4 hommes, mais devant toi, tu as les enfants, tu as le mari, tu as l'hôpital, tu as le boulot, tu as les occupations religieuses, tu as la famille, tout ça. Et tu dois traverser et puis continuer à mener la course. Et donc, je me sens plus à l'aise dans le syndicat. Parce que là, l'espace du militantisme, il est plus ouvert. Il y a une panoplie, une diversité de luttes qui permet d'avoir quand même une certaine convergence. Et c'est le syndicat seul qui peut aujourd'hui répondre aux aspirations populaires et donner le changement social que je porte. Actuellement, le syndicat et l'UST particulièrement conçu à travers cette notoriété nationale qu'elle bénéficie, lui permet d'être vraiment le meilleur contre-pouvoir de la dictature au Tchad. Et c'est la seule organisation qui actuellement porte les revendications populaires et qui met la pression aussi au gouvernement pour réclamer plus d'équité, plus de justice.
Vous arrivez au syndicat à travers votre profession. Greffière, c'était la profession que vous vouliez exercer. Pourquoi, à un moment donné, s'ouvre à vous le domaine de la justice? Ce n'est pas un hasard?
Non. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu à... J'ai détesté l'injustice. Ma quête de la justice, de l'équité, de l'égalité sont nées de ma petite enfance qui était un peu tumultueuse. Moi, je suis née dans une famille polygamique. La plupart de nos familles sont des familles polygamiques. Ma mère, elle nous a eu 6 filles. On n'a pas eu de garçons. Et mon père, il avait d'autres garçons. Je suis chez ma mère, je suis la deuxième fille sur 6. Et chez mon père, j'occupe le 8e rang sur les 20 enfants qu'il a eus. Donc, ce qui me révoltait aussi, c'est que j'observais le comportement de la belle famille, de ma mère vis-à-vis d'elle. Voir les frères, les sœurs de mon père, ou les co-épouses avec un regard méchant. Parce que chez nous, une femme qui ne donne pas de garçon, c'est une femme indigne, elle n'est pas une femme entière. Et donc, les filles, donner naissance à des filles, c'est comme un investissement nul. Elle n'a pas la place qui lui revient en tant qu'épouse, ni mère, ni fille encore. Et on voit à quel point l'oppression de la femme était permanente. dans la famille, on reléguait toujours ma mère, mes sœurs au second rang. On voyait à quel point notre éducation valorisait mes frères, mes cousins, mes oncles au détriment de mes tantes et de ma mère, de mes sœurs, qui sont des femmes très fortes, très dynamiques et à qui on demandait de faire plus. Et pourtant, elles n'ont pas le droit de prouver ce qu'elles ont déjà.
C'est ça, vous le ressentiez ?
Oui, elle faisait. J'étais témoin de toutes les querelles que les belles-sœurs à ma mère lui apportaient. Elle ressassait tous ces injures, tous ces mécontentements. Elle était frustrée. Elle était victime même des atteintes personnelles, physiques. Et j'observais tout cela. Je me dis, mais c'est cette femme qui est ma mère. Pourquoi devrait-elle subir tout cela? Et puis je vous rappelle, ma mère, elle a étudié. Elle a eu son bac D, un bac scientifique. Elle devrait normalement faire une carrière. Et elle est très bonne en mathématiques et en physique. Mais elle s'est retrouvée ménagère parce que, pour elle, dans son temps, une femme qui va déjà au mariage n'avait plus le droit de continuer, de poursuivre les études. Et même aujourd'hui, une femme qui a étudié plus que l'homme se retrouve, trouve que c'est un affront, il n'est pas respecté. Et qu'on trouve que les femmes qui ont beaucoup étudié, les femmes intellectuelles, ne peuvent pas avoir une vie de ménage confortable. Elle avait perdu l'estime en elle et je m'étais donné comme engagement que jamais. Je me fais la promesse de ne pas vivre la vie que ma mère a vécue. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas et je veux une autre possibilité, une autre vie. Et je veux vivre autrement. Quand j'étais très jeune, j'aimais beaucoup lire les œuvres du Camerounais Mungo Betti. Il a rédigé le programme politique du panafricanisme. C'est lui qui a donné le manifeste du panafricanisme. Et il a été une très grande source d'inspiration pour moi. Au travers de ses œuvres, j'ai découvert aussi la culture camerounaise, les luttes sociales, les résistances africaines lors de la colonisation, et également découvrir les hommes et les femmes qui ont résisté à l'assaut du colon français et pour effectivement défendre les communautés, défendre les peuples qui devraient subir l'esclavage, la colonisation, tout ça. Il a été une grande source d'inspiration pour moi. Ça, c'est l'un de mes auteurs préférés. Il y avait aussi Camara Lai, qui a aussi un peu renforcé ma personnalité de femme qui, à travers ses proses, magnifiait la femme africaine et martelait par ses écrits les défis de l'enfant africain, les conditions précaires. Et ça m'a renforcée.
Tranyoro, na taraka, anana jamana.
L'école, la langue française, la vie en Haute-Guinée.
Jacqueline Sorel interroge l'écrivain guinéen Camara Lai sur RFI. Nous sommes en 1976.
J'ai pu compter les mots de mon lexique. Je ne compte pas plus de 2000 mots. Tandis que le français, quand même, est une langue assez riche. Alors ça me plaît à cause de cela. Et il fallait quand même l'apprendre parce que celui qui faisait une faute à partir de 13 ans devait aller garder les vaches. Alors donc, il fallait connaître son vocabulaire et ne pas faire de faute au certificat d'études, puisque l'avancement du maître dépendait du nombre d'enfants qu'il avait présentés au certificat d'études, évidemment aussi, qui avaient réussi. C'est ce qui fait que tous les enfants de 1934, 35, 36, 37, en fait, à court ça, sont bien en français parce que le maître les obligeait à apprendre le français, faute de quoi vous gardiez les vaches. Comme on n'aimait pas aller garder les vaches, on préférait apprendre les règles de grammaire pour bien écrire le français. Les maîtres étaient des Africains, les inspecteurs d'académie étaient des Français, mais dans le village de Coursa, il n'y avait peut-être que deux Français, l'administrateur et sa femme, qui menaient à côté leur vie, qui n'était pas notre vie, qui n'était pas la vie des Malinqués. Mais nous, au village, nous menions notre vie. Évidemment, l'administrateur n'intervenait dans notre vie que quand il y avait quelque chose d'anormal. Mais à part ça, on ne se rendait pas compte de leur présence. À l'apparition du livre en 1953, je fus attaqué par quelques étudiants africains. Or, l'enfant noir n'est rien d'autre. Évidemment que la vie d'un enfant noir, que j'avais intitulé d'ailleurs « Enfant de Haute-Guinée », mais que Plon a appelé « l'enfant noir », à mon avis, ce n'était pas l'enfant noir, c'était l'enfant de Haute-Guinée, donc, dont la vie est un peu plus différente, plus africainement différente, par exemple, de la vie d'un autre africain, puisque j'ai vécu très africain en Haute-Guinée.
À côté de lecture, il y avait aussi Wangari Maathai, une très grande Kenyane qui est une figure emblématique et pour moi c'est la plus grande des féministes africaines. Son histoire a forgé un peu la personnalité que je suis aujourd'hui. Prendre parole comme femme actuellement, je pense que c'est le point de départ de la libération même de la femme, de l'autorité de la femme. Et elle a été valablement écoutée par bien de femmes, comme nous autres, et on essaie de marcher sur ses pas et de nous créer aussi notre chemin.
The approach that we have been preaching is like an African traditional stool. The three legs are the three pillars that every country, every state needs in order to be stable.
Pour comprendre mon approche, imaginez un tabouret traditionnel africain. Chacun de ces trois pieds correspond à trois piliers dont tout État a besoin pour être stable. Tout État doit être démocratique. Tout État doit gérer ses ressources de manière responsable, veiller à ce qu'elles soient partagées entre les citoyens de manière juste et équitable. Et enfin, tout État doit développer une culture de la paix.
Every state has these, then it is very easy to develop the basin.
Si un État possède ces trois piliers, alors il est très facile de construire l'assise du tabouret, la plateforme sur laquelle on peut ensuite faire du développement. Car alors, vos partenaires peuvent vous aider.
And this message is particularly very important for Africa.
Et ce message est particulièrement important pour l'Afrique, où beaucoup d'argent a été investi, et nous nous demandons souvent pourquoi les Africains n'arrivent pas à sortir de la misère, à s'élever au-dessus de la pauvreté. Eh bien, si je fais une métaphore, c'est sans doute parce que nous possédons seulement un ou deux de ces piliers, mais pas les trois. Et ça, c'est la responsabilité des dirigeants africains.
Only the African leaders can make this possible.
Wangari Maathai, première africaine, un prix Nobel de la paix, un documentaire signé Florence Maurice, extrait de La Marche du Monde sur RFI. Wangari Maathai, une voix inspirante pour notre jeune syndicaliste tchadienne, une femme courageuse, militante syndicale depuis ses 30 ans. Demba Kamadji-Kariom ose prendre la parole, elle ose prendre la voix, comme elle le dit si bien, au micro de notre reporter Clémentine Métainier.
Déjà, j'étais très jeune et lorsque nous sommes allés au congrès, il fallait déposer ses candidatures et beaucoup de femmes qui étaient là qui disent « Mais Demba, donne ta candidature. » J'ai dit « Mais moi, je suis trop jeune. Je ne peux pas diriger le comité des femmes. Vous êtes là, vous êtes plus ancienne que moi. Pourquoi vous ne donnez pas votre candidature ?» Et donc, du coup, j'ai été plus ou moins forcée par ces groupes de femmes-là pour obtenir. Finalement, elles ont... Au congrès, ils m'ont élu, j'étais là au milieu et puis je me rends compte juste des acclamations. Tout ça. J'ai dit, mais dis donc, moi je vais faire comment pour dire. J'ai dit non, nous serons là. Si tu as besoin, on va t'accompagner. Il n'est pas question que tu puisses diriger ce comité seul. Tu es la présidente, mais nous t'apporterons toute l'aide nécessaire. Et donc, je suis à mon deuxième congrès déjà où je dirige le comité des femmes. Mais c'est fou quand même. Chemin faisant, j'ai pu faire quand même une carrière, avoir un début de carrière bien assis. Difficile au départ, mais j'ai pu me reposer quand même sur certaines femmes syndicalistes qui m'ont qui ont été d'un grand secours. Et c'est ça l'importance aussi du syndicat. C'est qu'en militant, on a la possibilité de bénéficier de l'accompagnement de tous les aînés, de tous les autres leaders qui ont fait aussi leurs preuves et qui veillent spécifiquement que les bonnes valeurs, les bonnes attitudes et les aptitudes soient vraiment bien acquis par le militant pour lui permettre de cheminer réellement dans le syndicat.
Pour la première fois quand j'ai rencontré Demba,
Adjudji Guémé,
c'était dans un atelier syndical. Elle représentait son syndicat d'origine, syndicat de base, le syndicat national du personnel de greffe, SINAGREF. J'ai été très vite marquée par ses interventions pendant les débats. Elle était vraiment concise. Et j'ai vu en elle une jeune femme qui est éprise de justice et surtout très intelligente. Et c'est ce jour-là que j'ai remarqué Demba. Et à chaque fois que nous nous rencontrons dans des ateliers, même dans des réunions, je m'approche d'elle, on discute et j'ai vu vraiment en elle un avenir syndical.
Adjudji Guémé, elle fait partie des femmes qui m'ont montré la voie, qui m'ont accompagnée, qui m'ont talonnée et qui, à leur manière, elles ont fait de moi la femme que je suis. Elles sont nombreuses, elles sont très fortes, très dynamiques et beaucoup de gens pensent peut-être quand ils voient dire « Ah, Demba, tu vois, tu es la seule femme qui essaie de parler si fort, de donner le ton. » Mais il n'y a pas d'autres femmes au Tchad. J'ai dit non. Peut-être à travers le syndicat, j'ai occupé une position un peu élevée et qui me permet d'interagir avec les organisations au niveau national et international. Et ça a permis à ce que j'ai un peu cette notoriété internationale. Mais au niveau national et international, il y a beaucoup d'autres femmes tchadiennes qui, à leur manière, font bouger les lignes et nos combats sont les mêmes, mais à des manières, à des similitudes près. On nous a tendu la main. Nous tendons aussi la main à d'autres jeunes femmes d'avancer à notre niveau.
Alors vous vous attachez aussi physiquement, je dirais, parce que je suis tombée sur une vidéo où vous êtes à côté de cette femme, Adjudji Guémé. Et vous organisez, le 6 décembre 2007, une marche à l'initiative de la plateforme syndicale et puis d'autres structures de la société civile. Alors j'ai retrouvé cette vidéo. Mm-hmm. C'est une interview en fait d'Adjudji Guémé qui a été réalisée par l'International des services publics, mm-hmm. qui est une fédération syndicale internationale que vous connaissez bien, mm-hmm. et qui se consacre à la promotion des services publics de qualité partout dans le monde. C'est joyeux, cette mm-hmm. vidéo. Mm-hmm. Et puis on vous voit chanter à côté d'Adjudji.
Nous irons jusqu'au bout du monde. Ne périra pas. Le syndicat, oui, 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 syndicat, en avant, syndicat, ne périra pas. Le syndicat, oui, 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 syndicat, en avant, le syndicat, ne périra pas.
Vous avez une belle robe violette et effectivement, on voit que vous êtes plus jeune, hein? Que les autres femmes. Mais 2016, je veux dire, c'était il y a presque 10 ans.
Ouais.
Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ce moment-là?
Ah, c'est de la joie. Ah, je suis contente de voir qu'on a fait du chemin. C'était un moment très difficile. Mais bon, c'est derrière nous, mais avec beaucoup de conséquences, parce que au moment où cette vidéo a été tournée, on a traversé 6 mois de grève qui ont été très difficiles pour nous, femmes en tant que syndicalistes, et également pour les populations les plus démunies. Au Tchad, les femmes sont environ 55% et la plupart vivent dans une précarité totale.
Qu'est-ce qui déclenche ces grèves?
C'était déjà pour protester contre les 16 mesures d'austérité que le gouvernement avait prises de manière injuste pour redresser soi-disant l'économie. Et c'était sous la recommandation du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Mais On avait fait face à des coupes de salaire abusives pendant plus de 3 ans et demi. On a coupé de 50% nos indemnités, nos augmentations générales spécifiques ont été coupées également de 50%. Donc du coup, on a protesté contre ces mesures. Et pour dire que nous n'étions pas d'accord, parce que en tant que syndicat, nous surveillons au jour le jour les politiques publiques au niveau du Tchad et au niveau international. Et nous avons fait notre part en tant que syndicat en recommandant déjà qu'il y ait de la transparence dans la gestion des fonds publics, qu'il y ait une meilleure redistribution des ressources, parce que nous sommes un pays exportateur du pétrole, qu'une meilleure redistribution de ces ressources à tous les Tchadiens et à tous les nouveaux devait être se faire de manière équitable et non enrichir juste une catégorie de personnes. On a vu que nous n'avons pas de couverture santé, et nous n'avons pas de protection sociale et pourtant l'État a assez de ressources qui rentrent dans le couloir des détournements de fonds, de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de l'enrichissement illicite et nous les avons dénoncés. Au vu de toutes ces contestations sociales, nous avons dit non. Nous allons organiser une grève. La grève a été suivie de bout en bout au bout de 6 mois, mais les femmes ont décidé d'organiser une marche pacifique, pour demander au gouvernement de prendre ses responsabilités.
C'était pour exprimer notre ras-le-bol au gouvernement.
Adjoudji Guémé.
Et à l'opinion nationale et internationale que nous en avons marre de cette situation de souffrance. Parce que les enfants n'allaient plus à l'école. Tout était bloqué dans le pays. C'est pourquoi nous, les femmes, nous avons pris l'affaire en main et nous avons décidé d'organiser cette marche. Donc, pour marcher, il fallait déposer une autorisation au ministère de la Sécurité publique. Nous l'avons fait. Malheureusement, la réponse était négative. Le ministre nous disait que nous ne pouvons pas marcher. Dans tous les médias du pays, l'information passait. La marche des femmes est interdite. Malgré cela, nous avons continué la préparation de la marche citoyenne des femmes. Le ministre de la Sécurité publique nous a convoqués. Il nous a reçus.
C'était le ministre de la Sécurité qui avait demandé à rencontrer le comité des femmes. Il est sorti déçu parce qu'on lui a rappelé le rôle de la femme.
On lui a rappelé le rôle de la femme, en une chanson.
On lui a rappelé tout simplement le rôle de la femme dans une chanson. La chanson dit « La femme est la mère de Déby, la femme est la sœur de Déby. Elle est la fille de Déby, Déby, tu dois du respect. Elle t'a porté au ventre, elle t'a porté au dos. Elle t'a allaité, Déby, tu dois du respect. »
Vous chantez ça au ministre de la Sécurité intérieure?
Oui, on l'a chanté, il était fâché, il était en boule. Mais bon, on n'avait pas un autre moyen de lui dire de la manière la plus simple qu'il nous devait du respect. Parce que ils se sont tous liés contre la femme pour nous maintenir dans cette précarité, quel est l'homme qui peut accepter que sa mère, sa femme, sa fille ou sa sœur vivent dans la précarité totale? Ils ont des mères, ils ont des épouses, ils ont des enfants, des filles qui mangent à leur faim, qui dorment. Mais que font-ils de la mère des autres? Que font-ils des femmes des autres? Que font-ils des sœurs des autres? Que font-ils des filles des autres personnes? Je ne pense pas que personne au monde n'aurait voulu le bien pour sa famille, pour ses femmes dans sa famille, et vouloir mort et misère pour les autres femmes de la vie.
Le jour J, les forces de l'ordre ont encerclé la bourse du travail, qui est notre point de départ de la marche. Dans toute la ville, ce jour, les arsenals militaires circulaient. On dirait que le pays était en guerre. Et les femmes commerçantes des marchés se sont jointes à nous pour la marche. Mais il était impossible de marcher. Si ces militaires voient 2-3 femmes marcher ensemble, ils s'arrêtent et ils les arrêtent. Finalement, nous nous sommes retrouvés à la radio FM Liberté, une radio associative. Et j'ai fait la déclaration au nom de toutes les femmes tchadiennes et prise de paix et de justice. Après cette déclaration, le gouvernement a commencé à payer les fonctionnaires. Nous avons reçu nos salaires. Je peux dire ici que notre marche a porté ses fruits. Nous avons eu nos droits, même si ce n'était pas régulier, mais nous avons quand même gagné nos salaires et ça nous a soulagés. Et ça a soulagé toute la population tchadienne.
Mani dor batan biguduki, duniat kifi edenki. Mani dor batan bi asuruki. Kiram ni dor aleki, mat chasidi. Batan hugura, hey amara, yalla, dawisi wa anje. Hey amara, yalla, dawisi wa anje. Akadimi, wala dabiri, matukhafi, shili huriti. Akadimi, wala dabiri, matukhafi, shili huriti. Khafi shili huriki mata godi taraje illa bantuki yalla dafina fiski wasalli ubia winki mat khasidi batan istibal heya mara yalla dawisi wa anje heya mara yalla dawisi wa anje akhadimi wala dabiri matukhafi shili huritki akhadimi wala dabiri matukhafi shili huritki heya mara yalla dawisi wa anje heya mara wala dabiri matukhafi shili huriki hey yeah.
Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de la marche du monde. Nous sommes au Tchad du côté des femmes syndicalistes dont l'engagement militant s'apparente à des rituels d'émancipation. Si le syndicalisme dans les ex-colonies françaises est fondateur de la lutte politique contre le colonialisme, le militantisme syndical est devenu un contre-pouvoir depuis les indépendances. Face au régime autoritaire du clan Déby, au pouvoir de père en fils à la tête du Tchad depuis plus de 30 ans, les femmes prennent la parole et la voix du syndicat en assumant le risque d'être privées de leurs droits et de leurs libertés fondamentales.
La prison d'Amsinéné, vous entrez là-bas, vous ressortez plus pire qu'avant la prison.
La voix de Céline Narmadji, grande militante tchadienne, défenseuse des droits, arrêtée lors d'une manifestation en mars 2016 et condamnée en avril de la même année à 4 mois de prison avec sursis, pour, je cite, « incitation à un rassemblement non armé, trouble à l'ordre public et désobéissance à un ordre légitime ». Elle était l'invitée du journal Afrique le 2 octobre 2016 sur RFI, interviewée par Florence Maurice.
Au lieu que la prison transforme votre vie, ça détruit la vie au contraire. Les femmes sont logées sous un hangar de 4 sur 8, une bonne cinquantaine de femmes avec les nourrissons et les malades mentales. On s'arrange à se sacrifier au maximum pour mettre à l'aise ces nourrissons qui n'ont pas mérité cette place-là. C'est un mélange de torture morale, psychologique, que sais-je encore. Donc on ne peut pas tout décrire. Et ce n'était pas facile. En matière de droits de l'homme au Tchad, tous les coups sont permis. Mais la prison n'a pas atténué en nous notre engagement, l'engagement qu'on a pris pour amener la population à des actions pacifiques, non violentes. Beaucoup se disent aujourd'hui, bon, elles se taisent, ces personnes qui sont emprisonnées se taisent, est-ce qu'ils ne sont pas achetés, leur conscience, ceci, cela. La conscience ne s'achète pas.
Céline Armadi, elle est membre de la Ligue tchadienne des droits de l'homme depuis les années 90. Mm-hmm. Et j'ai lu qu'elle avait été présentée par la presse nationale comme la femme qui dérange et la Rosa Parks tchadienne.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Céline Armadji, cette femme-là?
C'est une icône de la lutte tchadienne. Elle fait partie aussi des femmes qui font bouger actuellement les lignes. Elle a gardé, malgré toutes les répressions qu'elle a subies, elle a toujours gardé la conviction de la citoyenne tchadienne qu'elle est. C'est une grande icône et que du respect pour elle et pour son engagement. C'est pourquoi les femmes comme moi devraient, nous, par devoir de mémoire, au vu de toutes les peines qu'elle a subies, cela devrait plutôt nous réconforter dans notre engagement à leur côté pour continuer à porter la voix des sans-voix. Et elle est fatiguée, mais elle ne perd pas la voix. Elle est plus forte que jamais. Le temps n'a pas encore eu raison d'elle. Et elle est debout. Dans notre pays, la femme n'est pas tellement respectée. Et lorsque elle se démarque des autres pour s'imposer, pour faire entendre cette voix féministe ou de défenseuse de droits de l'homme qui retentit en elle, déjà, il y a beaucoup d'étiquettes qui te sont attribuées pour te décourager. Tu subis même la pression au niveau même de ta famille, de tes collègues, de l'environnement dans lequel tu évolues, tout simplement pour dire que, bon, il y a des femmes qui ont fait avant toi et qu'elles n'ont pas réussi. C'est pas toi qui viendras changer les autres. Il y a plus de démotivation. Et donc, tu peux arriver à la position que tu es, que tu devrais être, mais le pire c'est de rester. Tu vas rester pendant combien de temps? Tu subiras les pressions pendant combien de temps?
Sommes-nous, chante le groupe Les Aunties. Nous ne voulons pas de problèmes, nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix et nous sommes tchadiennes.
Écoutez RFI, la marche du monde.
Demba, vous êtes née en 1984. On grandit comment dans un pays d'Afrique qui a connu le plus grand nombre d'interventions militaires depuis son indépendance?
Ouais.
Comment on grandit?
Bon, le seul constat que je fais, c'est que je suis née dans une dictature. Je vis dans une dictature et je ne voudrais pas mourir dans une dictature. Et le nombre de ces missions militaires françaises au Tchad prouve à suffisance que la France n'intervient au Tchad que pour faire et défaire les dictatures. On voyait l'opération Manta, par exemple, c'était contre l'invasion libyenne, mais qui a été conduite par Abré et qui va aller contre le pouvoir de Goukouni et installer Abré au pouvoir. 83, et vous allez voir que l'opération Épervier viendra simplement donner l'accompagnement militaire nécessaire à Déby pour pouvoir chasser Sénabré au pouvoir et devenir le président de la République et dire qu'il nous a mené la démocratie, une démocratie qu'il a rencontrée aux portes de Ndiamana. Et puis Barkhane, qui est terminé avec le décès de Déby, mais que la fin de Barkhane a permis quand même d'installer le fils de Déby au pouvoir. Donc du coup, nous retrouvons on a trois ou quatre dictatures qui se sont succédées avec un appui réel des militaires français. Donc moi, je ne connais pas ce que c'est que la démocratie. Je l'ai étudié dans les livres, je l'ai observé dans les pays. Et je l'ai admiré lorsque les Suisses vont aux élections pour dire que c'est le meilleur système démocratique avec les cantons, l'exercice du pouvoir. C'est tout ce que je sais de la démocratie.
Kamadji Dembakarium, une femme qui inspire sa génération. Aboubakar Sow est un réalisateur tchadien exilé en France, à Grenoble, depuis 7 ans. Il est notamment l'auteur du documentaire « Débicratie », une critique de la situation politique et économique au Tchad sous l'ère Déby, un film sorti en 2021. Il a le même âge que Demba. Transporté par la fougue de cette jeune femme, voulant mettre le monde au courant de la situation de son pays, Aboubakar Sow a décidé de consacrer un film documentaire au combat de Demba.
Elle est syndicaliste, pour nous c'est un peu la politique, donc on ne touche pas. Dès que tu rapproches ces gens, on dit « Ah tiens, il est pro-politique, il est opposant ». Donc au Tchad, tu fais attention à tout. On essaye de ne pas se croiser. Pourtant, on fait la même chose. On lutte contre l'injustice, elle lutte aussi contre l'injustice. Je lutte contre la malgouvernance, pareil, elle lutte contre la malgouvernance. Elle lutte pour les femmes. Nous aussi, on essaie de lutter à notre façon, d'impliquer beaucoup plus les femmes dans le théâtre, dans le cinéma, parce que pour nous, c'est elles qui sont à la base de tout.
Donc, il a fallu sortir du Tchad pour vous rencontrer.
Et il a fallu ça des années pour qu'on se rencontre enfin en 2022. On nous a invités en Suisse pour aller faire un dialogue national entre Tchadiens. Et elle était la seule femme. La seule. Déjà, ça explique tout. J'ai dit, c'est pas possible. Parmi tant d'hommes, il y a des politico-militaires, il y a des syndicalistes, il y a des artistes. Mais elle était la seule femme. Ça m'a frappé. Je me suis dit non. Il faut que je la suive dans son parcours. On s'est dit, je veux faire un documentaire sur elle. La situation du Tchad, bien sûr, qui est encore beaucoup plus compliquée pour elle et pour le peuple tchadien qui sont au Tchad. Tantôt, c'est une lueur d'espoir qui est née. Tantôt, c'est la paix. Et puis, tout d'un coup, les gens, c'est la guerre qui est récente. On ne sait pas. Est-ce que les Tchadiens, c'est ce qu'elle me disait, on a de l'espoir, mais très vite, ça meurt. Et très vite, on pense à la guerre. Très vite, on souhaite que la guerre vienne pour qu'il y ait cette petite paix.
Alors, Soleil Noir, ça veut dire quoi? Ce serait le titre de votre documentaire?
Oui, ce serait le titre d'un documentaire. Karium et Yom veut dire mort. Donc, pour nous, le soleil est mort au Tchad. Mort dans le sens où plus d'espoir, plus de vie. Les gens essaient de survivre. Et c'est ça que j'aimerais, avec Dembal, essayer d'expliquer aux gens, de dire au monde que le Tchad est en train de sombrer tout doucement dans les ténèbres.
À partir de cette conférence, vous devrez chercher à savoir, renforcer. Il y a plein de documentation sur le Tchad, sur la France. Et il faut déjà chercher à comprendre parce que beaucoup de Français ne comprennent même pas ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à faire le lien avec leur situation au quotidien. Et nous, on lutte contre l'austérité, le pouvoir d'achat. On veut faire nos courses et manger à notre faim. On veut avoir un revenu décent, vivre dans de bonnes conditions, travailler et vivre du fruit de notre labeur.
Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette femme-là, cette Demba-là? Qu'est-ce qu'elle symbolise?
On va dire Marianne, mais... que les gens connaissent, que les Français connaissent, mais voilà, elle symbolise un peu Marianne, elle symbolise nos mamans qui souffrent toujours et qui n'ont pas leur place, qu'on ne leur donne pas leur place qu'il fallait, et qui font tout. Aujourd'hui, les femmes tchadiennes font tout pour donner l'espoir au peuple tchadien. Et c'est ça que je vois en Dembal. Elle a tout sacrifié, elle a tout donné de son temps, de sa vie, de son sang, pour que l'espoir essaie de jaillir au Tchad. Voilà ce qu'elle représente. Et ça, pour moi, dès que je la vois, elle représente... Comment vous expliquer? Il n'y a pas d'explication, parce que le Tchad a besoin de tant de femmes comme elle. Et elle représente tout ça. Elle représente l'espoir, elle représente la paix, elle représente la liberté au Tchad. Ces hommes en armes, ça suffit. Et pour que ça cesse, il faut des femmes comme Dembal Carion.
On devrait avoir les conditions de vie les plus normales en tant que femme, vivre notre vie de femme épanouie, respectée, ne veut pas être discriminée, et finir par une bonne retraite. Et mener nos activités sans pour autant être dérangé par l'impôt, par les taxes, toutes ces questions-là. Et lorsque nous sommes là, nous devrions être en mesure de pouvoir avoir les soins de santé les plus élémentaires et à moindre coût. Je pense que c'est des besoins que nous partageons avec vous et qui sont justes. C'est parce que notre gouvernement n'arrive pas à mettre tout cela en place. Mais nous espérons que ces revendications nous portons, sont les mêmes que vous portez, mais ayez-le sur un angle plus africain, plus tchadien, pour également vous engager dans ce combat avec nous. Un autre monde est possible. Hein? Merci.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
Chuna, Bushufuna, Bakrahona, Oishamutu. Anina Kaya tu fil Kumal anajereda. Gajin Nahatu Usum, Arabi, Francia, wa Inglisi Kulla, wa Garib Chinwa, wa Rusia. Lakin Anina Kaya tu fil Kumal anasafar. Libna, Kinina, Akilna, Wakitna, Anina Soana Betrabda, Almahari, Beharai, Betapna, Ofarkitna.
Tchad, quand les femmes prennent la voix du syndicat. C'était un nouvel épisode documentaire de La Marche du Monde, signé Clémentine Métainier, réalisé par Sophie Janin et produit par Valérie Nivelon.
Tchad, quand les femmes prennent la voix du syndicat. C'était le cinquième épisode de notre collection thématique African Queens. Dans le prochain épisode, vous découvrirez les sœurs Nardal, à l'avant-garde de la négritude, deux petites filles d'esclaves devenues phénomène éditorial. À écouter sur RFI.fr, RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.